Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Peckinpah, qui est un des cinéastes les plus importants de ces 50 dernières années, à l'époque, qui est vraiment voilà, la horde sauvage. Quand son film sort en 69, ça fait vraiment l'effet d'une bombe, c'est une déflagration dans l'histoire du cinéma américain, dans l'histoire du western, et même esthétiquement. Je pense qu'on en avait déjà, d'ailleurs, semble-t-il, déjà parlé, mais la révolution formelle qu'a été la horde sauvage en 69, en fait, on n'en est toujours pas sorti. La mise en scène, on pourrait dire, de la violence, de l'action, des tirs, c'est quelque chose dont le cinéma américain continue de se servir encore aujourd'hui, même avec les effets numériques, etc. Donc Peckinpah, avec Léon, un peu au même moment, avait inventé une grammaire, une façon de filmer l'action, les gunfights, qui depuis n'a jamais été en fait renouvelée, on pourrait presque dire.
Sur toutes ces années.
Tu veux que je sois franc avec toi?
Si c'est pour ça que tu es venu.
Les gros éleveurs veulent que tu t'en ailles, que tu quittes le pays.
C'est un souhait ou bien un ordre sans appel?
C'est mon souhait. Et dans 5 jours, c'est moi qui t'en donnerai l'ordre. Quand je serai nommé shérif du comté.
Pauvre vieux. Au shérif Pat Garrett, qui s'est vendu aux éleveurs de Santa Fe. Dis, tu peux rester un peu. On a quelques jours, il n'y a pas le feu.
Non, il faut que je reparte.
Adios, Pat.
Adios, lui.
Tente pas trop le diable.
C'est pas au diable qu'il faut dire ça. Pourquoi tu le tues pas?
Pourquoi? C'est mon copain.
Alors, Sam Peckinpah, il appartient à cette... je vais essayer de faire court parce qu'il faut qu'on parlera plus longuement après. Mais il appartient, donc, vous savez, à cette génération. Il y a 3 générations qui ont constitué le nouvel Hollywood. Lui, il appartient aux anciens, si vous voulez. Il est né à la toute fin des années 20. Il est donc de la génération d'Arthur Penn, de John Frankenheimer, de Robert Aldrich, de Don Siegel. Il n'appartient pas à la génération des Scorsese, William Friedkin, Brian De Palma. Il est plus ancien. C'est quelqu'un qui est un autodidacte, si vous voulez, qui a travaillé d'abord à la télévision. Il s'est beaucoup formé à la télévision. Il a réalisé beaucoup d'épisodes de séries de westerniennes, Bonanza, des choses comme ça. Il s'est fait la main comme ça, comme Robert Altman, si vous voulez, par exemple, comme Arthur Penn, qui lui aussi a travaillé à la télévision. Et donc, il a réussi finalement à faire une série de on pourrait dire, de petits films de télévision avant de réaliser son tout premier film qui date, le sien, du tout début des années 60, Deadly Companion, un film qui tourne avec son équipe de télévision d'ailleurs, avec à peu près les mêmes acteurs, qui est un film pas extraordinaire. On sent un Peckinpah encore totalement, on pourrait dire, étriqué à l'intérieur d'un système de production à Hollywood qui lui permet pas encore de faire ce qu'il fera par la suite, en l'occurrence La Horde Sauvage. Et puis ensuite il va tourner alors un des plus beaux films d'ailleurs des années 60, un des plus beaux westerns. Et d'ailleurs à l'époque André Bazin avait dit de Coup de feu dans la Sierra. C'est le film qui tourne en 62, qui est sans doute peut-être le plus beau western américain tourné lors de cette année-là. Écoutez, dans la Sierra, c'est un film qui racontait l'histoire de deux westerners, on pourrait dire deux cow-boys vieillissants, et qui se baladent dans un ouest qui est en train de totalement changer. C'est le grand thème des films de Peckinpah. C'est à la fois des personnages qui sont, on pourrait dire, anachroniques, qui sont plus de leur temps, à l'intérieur d'une Amérique, alors ça peut être l'Ouest, là vous allez voir, c'est le Mexique et l'Amérique, qui est en train de changer, sont les derniers. Quoi. Le cinéma de Peckinpah, qui est un grand cinéma mélancolique, c'est le cinéma des derniers. Quoi. Et La Horde Sauvage, pour ceux qui s'en souviennent, commence avec ça. Voilà, William Holden, Ernest Borgnine, toute cette bande de gens-là qui vont vivre finalement leur enterrement, quoi. Somptuaire, mais leur enterrement quand même. Et donc, il va réaliser ce très très beau western. 3 ans après, il réalise un autre western qui s'appelle Major Dundee avec Charlton Heston. Très très beau film, mais totalement mutilé par la production à l'époque. Ce qui va permettre de comprendre beaucoup de trajets de Peckinpah. Peckinpah qui était un cinéaste, on pourrait dire, à la fois totalement exubérant, provocateur, nihiliste, alcoolique, qui a brûlé, on pourrait dire, sa vie par les deux côtés. Il est mort, il avait 54 ans, il est mort en 1989. Il aurait pu tourner des années encore. Et ses derniers films, il les fait sur un lit d'hôpital quasiment. C'est quelqu'un qui a une vie, on pourrait dire, rock'n'roll, Sam Peckinpah, si vous voulez. Bon. Et avec Major Dundee, on peut dire qu'il inaugure une des relations orageuses qu'il aura avec les studios. Je dis ça parce que c'est très important pour Alfredo Garcia de penser que le film parle aussi du statut de Peckinpah à l'intérieur des studios hollywoodiens. On y reviendra évidemment après, mais ça c'est une clé qui est intéressante de voir. Vous allez voir que le personnage principal qui est joué par Warren Oates dans Alfredo Garcia porte des lunettes noires pendant une grande partie du film, qui est une sorte d'hommage de Peckinpah à lui-même. Peckinpah sur les tournages portait toujours des lunettes noires, et le film fait aussi un portrait de Peckinpah au milieu des années 70, alors que c'est un cinéaste qui vaut quasiment plus rien du point de vue d'Hollywood, qui est totalement rejeté, totalement marginalisé. Donc il va réaliser Major Dundee, qui va être massacré. C'est les débuts de son rapport à Hollywood. Il a toujours des rapports extrêmement violents avec Hollywood. Et puis, donc, il va commence une sorte de petite tracée du désert qui va durer 4 ans pour lui. Et puis, c'est la fameuse année de La Horde Sauvage, qui correspond avec les débuts de Hollywood. Peckinpah, il fait partie de tous ces cinéastes qui, en 68-69, ont chacun dans leur domaine fait un film majeur. Alors, il y a eu 2001, Rosemary's Baby, Bonnie and Clyde, on pourrait en citer d'autres. Et La Horde Sauvage fait partie de ces films fondateurs du nouvel Hollywood. Le film fait 2h45, une espèce de western apocalyptique, phénoménal, baroque, incroyable. Bon, et là, après ses relations avec Hollywood, va avoir un autre problème qui va lui coller à la peau en permanence, qui est celui de la violence. Il devient, pour une critique un peu conservatrice, l'incarnation d'une espèce de violence, on pourrait dire gratuite, totalement exubérante. Vous allez voir, la violence chez Peckinpah, c'est pas, on pourrait dire, c'est pas un truc, c'est un thème central. C'est un des grands sujets du cinéma de Peckinpah, c'est le rapport de l'homme à la violence, le rapport de l'histoire à la violence. Et on l'appellera à partir de là Bloody Sam, d'ailleurs. Ceux qui n'aimaient pas Peckinpah l'appelaient Bloody Sam, l'homme des bains de sang et des carnages à l'écran. Des gunfights, si vous voulez. Bon. Après La Horde Sauvage, il va réaliser d'autres films, Un Nobe Cabologue, qui est un film très très doux, magnifique, avec Jason Robards. Et puis, donc, alors, Les Chiens de Paille, Vous avez peut-être entendu parler d'Ocean Pie avec Dustin Hoffman, qui est un film absolument incroyable et qui lui vaudra évidemment des volées de bois vert. Moi, j'ai fait plusieurs débats sur l'Ocean Pie et généralement 9 fois sur 10, le débat se termine mal parce qu'on m'accuse de légitimer ce qui se passe dans le film. C'est un film qui est très compliqué, notamment avec une séquence de viol de 10 minutes extrêmement complexe au milieu du film. Et puis, il va donc réaliser ensuite Pat Garrett, qui devait être son grand retour au western, une relecture du mythe de Pat Garrett, enfin de l'histoire de Pat Garrett and Billy the Kid. Et là, encore une fois, le film est totalement, encore plus que Major Dundee, mutilé par la production, en l'occurrence la MGM, qui coupe 20 minutes, qui change le montage, change le début, change la fin. C'est un massacre intégral. Et en gros, c'est dans cet état-là que Peckinpah va attaquer Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Dans un état où il est totalement marginalisé à Hollywood, plus personne ne veut lui faire confiance, il est beaucoup trop instable, beaucoup trop colérique avec les producteurs, c'est quelqu'un qui tourne, en plus qui tourne beaucoup de plans, mais qui ne donne pas suffisamment de matière pour qu'ensuite un monteur dans son dos puisse remonter n'importe comment le film. C'est très compliqué de remonter un film de Peckinpah, parce qu'il n'y a que lui qui a dans sa tête la logique du montage. Après tout, il n'y a jamais eu un royaume qui a donné tant de sang que celui de Christ. Give guns to someone to kill your father, or your mother, or your brother. We represent the law! My people have no guns, but with guns, my people could fight. I'm gonna get rid of you. You cannot get rid of anybody. We're gonna stick together just like it used to be. When you side with a man, you stay with him, and if you can't do that, you're like some animal. You're finished. We're finished. All of us! A world of danger, and a world of men, a world without women. All I feel is kindness. She was a treasure waiting to be found, a dew-kissed flower sparkling in the sunrise. Her breath was that of a wanted angel upon my lips. She's a married woman. I shall walk in her breezes, bask in the rays of her beauty, lie in the golden arches of her passions. I've seen too much die. I wanted so desperately to feel alive. For both of us to feel alive.
Here's to your wife, girlfriend, women.
Yeah! Women!
Here's
women.
To the women of Folies Bergères.
And to the girls of the Reaper Bar. Oh, no!
Feels like times have changed.
You could leave, you could live in Mexico.
Come to Mexico, Billy.
We'll go someplace new.
Adios.
Can we find a new place?
Yeah, I could live anywhere.
Adios.
Adios, Pat.
Adios, Bill.
Why don't you kill him?
Why? He's my friend.
Thank you.
et donc il va tourner Alfredo Garcia. Alors vous allez voir, on en parlera plus longuement après, mais ce film en fait est tourné alors au Mexique, qui était pour Peckinpah un peu le paradis perdu, si vous voulez. Il y en a qui rêvaient d'arriver en Californie, d'autres qui rêvaient d'arriver à Nouvelle-Orléans. Le paradis de Peckinpah, dans son imaginaire cinéphilique, si vous voulez, c'est le Mexique. Hein, quand Peckinpah, il a vécu là-bas, il a épousé une Mexicaine à un moment de sa vie. Et donc, si vous voulez, c'est l'Éden pour lui, le Mexique. Et donc, il va tourner ce film à Mexico et dans la banlieue de Mexico. Et ça raconte, vous allez voir, hein, l'histoire d'un pianiste de bar qui est chargé d'une drôle de quête. Vous allez voir quelle est cette quête, même si le titre en dit évidemment beaucoup.
Bring me the head of Alfredo Garcia.
Tráiganme la. Let's go.
If they move, kill them.
I do know if any man signs on with me and then attempts to desert, I will shoot him out of hand.
First time I saw him, he was dead.
How exactly do you see yourself?
I want to get the Iron Cross.
I don't need respect from a man who took his kin to fight against their own brothers.
This is where I live. This is me. I will not allow violence against this house.
Which is to possess, is to live in fear, to desire, to live in love. That mining town
that says... The fight is extinguished in our eyes.
The end of the land of sacrifice to it. Every fool shall be taken therewith. They shall carry their riches on the shoulders.
But give them none, that's what they have.
Your people shall not bother them.
Isaiah,
chapter 30.
God helping me.
I tell you.
Heavenly Father, we thank thee for the food of the stable. Teach thy children to be grateful for thy goodness, to walk in thy path. They may not suffer thy wrath and thy vengeance. Bless us, O Lord, and these our guests. Give them the mercenary desire that brought them here. Amen.
No, Billy. No, Billy. No, not here.
Are you talking to me?
No, Billy.
No.
Ah, you straighten out, you hear me?
It feels so goddamn good.
You're a scientist. Can you deny the responsibility?
Can you?
La seule fois où Sam Peckinpah a représenté la grande histoire sans passer par le western, son pays natal, c'était pour Croix de Fer, un film de guerre. Et comme toujours chez Peckinpah, le générique est tout un programme. Ici, une leçon d'histoire illustrée par l'archive, qui raconte la montée du nazisme sur un air de comptine. Peu à peu, les images changent de rythme, et une engageante marche militaire vient remplacer la petite voix de l'enfance. Le montage devient de plus en plus brutal, pour dire l'enlisement de la Wehrmacht en URSS. Les archives s'entrechoquent et deviennent de purs signes de l'horreur. Comme une boucle fatale, revient sans cesse le visage d'Hitler, qui croise avec indifférence celui de ses soldats, effondrés et défaits sur le front de l'Est. La montée de tension est la marque du génie de Peckinpah. Mais à la fin, comme une fatalité, le sifflement de la bombe qui tombe signale que tout va sauter. L'histoire est une explosion de violence. Mais de quoi est fait le passé revu et corrigé par Peckinpah? Eh bien d'abord, c'est une galerie de personnages, des figures, des corps, des visages, tous venus du cinéma classique, mais réinventés par le cinéaste en l'espace de 10 ans. Il y a les enfants qui sont partout dans l'œuvre, ceux au début de la Horde Sauvage qui s'amusent au spectacle du scorpion dévoré par les fourmis, ceux qui s'ennuient et passent le temps en jouant avec la potence sous le regard amusé du Marshall, dans Pat Garrett et Billy the Kid, ceux qui suivent à la trace le vieux Cabellhaug et s'amusent ses démarches pour décrocher un prêt bancaire que tout le monde lui refuse, et puis bien sûr, l'enfant, seule figure amie du sergent Steiner dans Croix de Fer,
Steiner.
Le petit prisonnier russe que l'Allemand laisse partir et qui lui jette son harmonica en signe d'amitié. Après les enfants, les grands, les adultes. Enfin, jamais vraiment adultes chez Peckinpah. Il faudrait dire les hommes. On l'a assez dit, le cinéma de Peckinpah est un cinéma d'hommes. Ils se répartissent en trois catégories. D'abord, la grande famille des brutes, au visage effrayant, les affreux sales et méchants de l'Ouest, que Peckinpah, après Sergio Leone, a été le premier à filmer avec autant de force. Ils sont pervers et très fiers de terroriser la bonne société. Ils sont comme la version dégradée des petits-enfants, sans grâce, et toujours prêts à commettre le pire sans vergogne. Peckinpah ne les juge pas vraiment, il a même parfois de l'affection pour eux, comme Steiner qui gronde comme un gosse, un soldat, prêt à violer.
Up, up, out.
Le deuxième groupe d'hommes est composé des religieux et des politiques.
God helping me.
Peckinpah ne les soigne pas davantage que les précédents. Il les charge même beaucoup. Chaque film prend soin de dénoncer les dangers du puritanisme et ses agents actifs. Un pasteur qui sermonne une assemblée de vieilles dévotes contre les dangers de l'alcool tandis que le massacre se prépare. Un père qui frappe sa fille pour punir ses relations impures avec un inconnu. Un marshal brutal qui fait mettre à genoux Billy et qui est prêt à le torturer pour lui imposer de force sa repentance dans Pat Garrett et Billy the Kid. Un pasteur violeur, David Warner dans la ballade de Cabellhaug, qui écoute une jeune femme égarée et lui susurre quelques mots de réconfort pour mieux lui tripoter les seins, sa grande passion après les écritures. Et puis il y a les politiques, haïs par Peckinpah, qui font peur aux enfants. Tous plus ou moins fascistes, tyranniques. Emilio Fernandez, en général Mapache dans La Horde Sauvage. Maximilian Schell, en capitaine Stransky, nazi obsédé par la gloire militaire, dans Croix de Fer. Emilio Fernandez, encore, en père mafieux qui fait torturer sa fille en public pour obtenir le nom de son amant, dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Tous ces puissants, Peckinpah leur fait payer cher leur morgue et leur cruauté. Si l'histoire a mal tourné, c'est leur faute, et le récit s'efforce de les détruire, au mieux. Que reste-t-il du nazi fou de gloriole, une fois plongé dans la violence de guerre et ses massacres? Un homme dans la boue. Le père tortionnaire est abattu par Warren Oates, sur ordre de la jeune fille outragée. Billy retrouve la liberté après avoir envoyé sa chevrotine sur le marshal fou de Dieu. Quant à William Holden et sa bande, ils n'hésitent pas une seconde à tirer sur l'immonde Mapache qui vient d'égorger leur ami. Même si c'est suicidaire et qu'une armée entière va se retourner contre eux. Car la beauté du geste, comme expression de la morale, définit le troisième groupe d'hommes, les héros de Peckinpah. Ce sont bien sûr des anti-héros, des déclassés, des hommes dont l'histoire ne sait plus trop quoi faire, à l'image de la troupe hétéroclite recrutée par le Major Dundee pour traquer l'ennemi Apache. Une armée composée presque exclusivement d'outcasts, tous à la marge de l'histoire. Des Indiens égarés reconvertis en éclaireurs, des esclaves affranchis qui demandent de servir, et bien sûr, des soldats confédérés vaincus qui n'acceptent cette mission que pour éviter la prison et prennent plaisir à entonner Dixie pour narguer et recouvrir la trompette des Cavaliers Bleus. Tous les westerns de Peckinpah se situent à la fin du 19e siècle, à un moment où l'homme de l'Ouest n'a plus de repères. Dans Coup de feu dans la Sierra, Joel McCrea, dans son dernier rôle, entre en cavalier solitaire dans la ville et se réjouit de la foule venue pour l'accueillir. Mais les gens ne sont pas là pour lui. Un policeman vient lui demander de dégager la voie. Il proteste d'abord, puis comprend. Les gens sont venus assister à une course de chameaux. On retrouve cette même parade pour touristes au cœur des années 60 dans Junior Bonheur. Il ne reste plus du western que ce folklore de pacotille où l'homme de l'Ouest n'a plus sa place. Quel rôle jouer dans un monde qui ne vous désire plus? Dans Coup de feu dans la Sierra, Randolph Scott, autre acteur star du western classique, doit se déguiser en Buffalo Bill et bidonner la légende de l'Ouest pour attirer les clients à son stand de foire.
Step up, try your luck. All you gotta do is hit the plate.
Les hommes sont vieux et leur corps fatigué. William Holden ne monte plus à cheval aussi facilement qu'autrefois. Et les moqueries de ses jeunes partenaires renforcent sa fragilité. Ernest Borgnine regarde son vieil ami prendre les devants de la chevauchée, mais le mouvement est lent, et le cavalier semble faible sur sa monture. Les héros vieillis de Peckinpah ne cessent de se faire humilier. Dans la horde sauvage, Thornton Robert Ryan est menacé par son employeur de retourner en prison et aux séances de torture s'il refuse de traquer son ancien ami et sa bande dehors la loi. Même souffrance chez Pat Garrett, James Coburn, shérif malgré lui, qui pactise avec les hommes d'affaires et les politiques pour capturer Billy, son meilleur ami. Quant à Steiner, James Coburn, encore, on ne peut guère imaginer un nazi plus écœuré par la guerre et le fascisme. À cette mélancolie qui travaille en profondeur les films de Peckinpah et avec eux l'histoire de l'Amérique, le cinéaste répond par une utopie, une Amérique de la frontière sud. Chaque western est une déclaration d'amour au Mexique. L'utopie tendre a un pendant. C'est bien sûr l'explosion de violence et son cortège de désordre. La fusillade et le chaos qu'elle engendre identifient Peckinpah cinéaste. Avec sa double vitesse, vitesse normale pour les tireurs et ralentie pour les corps qui s'effondrent, criblés de balles, qui sortent en giclées de rouge épais, tout ça sous le regard effaré des enfants, encore. Un marshal agonise au bord du fleuve après un assaut mal préparé, et c'est tout le passé violent de l'Amérique qui revient. Chez Peckinpah, la violence est la conscience malheureuse des personnages, la hantise qui fait de l'histoire un bain de sang. La violence est un acte de désespoir, jamais une libération, encore moins un acte gratuit. Pat Garrett tire sur son ami, puis sur son reflet dans le miroir. Il sait alors que tout est mort en lui. Quant aux quatre hommes qui partent affronter l'ennemi mexicain supérieur en nombre pour sauver leur ami pris en otage, ils sont portés par la conscience que c'est leur dernière fois. Si la horde sauvage compte tellement dans l'histoire du cinéma, c'est que Peckinpah y filme peut-être le dernier duel au soleil. Un duel pour l'honneur, perdu d'avance. Un duel romantique, pour la beauté du geste.